Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Eva Piedel.
Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que l'enfant que nous avons été reste à nos côtés, même quand nous sommes devenus grands, ou est-ce qu'on l'oublie une fois devenu adulte? C'est l'un des thèmes qui traverse le nouveau roman de notre invité aujourd'hui, une fiction où un homme, dans des circonstances très particulières, se remémore toutes ses premières années jusqu'à son adolescence, une période fondatrice qui influencera sans conteste ses choix futurs. Bonjour Maïr Guven.
Bonjour Catherine.
C'est vous l'auteur de cette fiction parue sous le titre « Les Innocents » chez Grasset, votre deuxième publication après « Grand frère », prix Goncourt du premier roman en 2018, un texte qui avait fait grand bruit. Ici, c'est plutôt du côté de la douceur, de la fragilité que vous vous tournez à travers ce roman d'apprentissage, donc, où nous suivons votre personnage principal, Noé Stéphane, 35 ans au début, que l'on découvre en prison pour une garde à vue qui se passe très mal. Et là, alors qu'il perd connaissance, toute sa vie antérieure défile. Quelle est l'idée de ce postulat, qu'il faut se souvenir d'où on vient, de ce qui nous a formés pour comprendre pourquoi on en est arrivé là?
C'est parti de là, je dirais, à un moment où, notamment, je voulais avoir un enfant. Et j'ai commencé à me rappeler mon enfance et à me rappeler à quel point j'étais heureux. J'étais heureux, et ce que je pense maintenant, c'est-à-dire que je venais d'un coin ni pauvre ni riche. Nous, on était pauvres parmi les moyens, mais on était fondamentalement très heureux. Et donc, à partir de là, j'ai voulu rendre hommage à la ville de mon enfance, Saint-Sébastien-sur-Loire, aux gens, aux Nantais, aux Sébastianais. Et puis, bien entendu, en construisant un roman. Et ce qui m'intéressait, comme dans Grand Frère, c'est de partir de scènes très contemporaines. Donc la scène contemporaine, c'était une scène de garde à vue où le protagoniste est en train de s'étouffer en cellule. Mais si vous voulez, quand on suit l'actualité médiatique, quand il y a ce genre de scène, on se dit qui a tort, qui a raison. Là, c'était pas... c'est plus bien ou le mal. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un protagoniste au moment où il va mourir? C'est ça que je me suis dit. Je suis allé chercher du côté de l'ésotérisme. Vous savez, les expériences de mort imminente et ce genre de choses. J'ai lu beaucoup de témoignages de gens qui racontent qu'ils ont eu l'impression d'avoir vu leur vie défiler. Et dès lors, je me suis dit, allons sur le territoire du roman et racontons comment on juge sa vie a posteriori. Voilà.
Mais j'entends aussi, Maïr Guven, que c'est le père en devenir que vous êtes qui veut un enfant, qui donc se souvient de cet enfant qu'il a été. Cette figure de l'enfant, elle est importante dans la vie d'adulte et il ne faut pas l'oublier. C'est ce que ça dit aussi.
Oui, c'est que c'est fondateur. Moi, longtemps, j'ai eu tendance à l'oublier. Je veux dire, dans mon premier roman, je dirais que j'étais resté dans mes fantasmes adolescents. La banlieue, etc. Ce que j'ai connu, que j'ai aimé, mais... Je veux dire, j'avais oublié ce qu'il y avait avant. Et donc, je m'étais peut-être enfermé dans ce en quoi la société cherchait à m'assigner aussi, la lutte contre les discriminations, etc. Bien entendu, je crois toujours à tout ça, mais j'ai été autre chose, je suis aujourd'hui autre chose, et peut-être que je suis devenu adulte. Les Innocents, c'est peut-être juste ça. C'est le roman d'un enfant qui est devenu enfin adulte. Il faudrait poser la question à ma mère.
Alors, parlons de Noé. Enfant unique, blond et bouclé comme son père, qui n'est plus là, élevé par sa mère célibataire, légèrement boiteuse depuis un accident, et puis aussi son jeune oncle Jean Eudes, sans oublier tous les copains de Noé, Gabriel Calander en tête, qui est un garçon kurde émigré, et n'oublions pas non plus toutes les filles dont Noé va tomber amoureux. Et tout cela en Bretagne, vous le disiez à l'instant, pas très loin de Nantes, une région que vous connaissez bien, puisque c'est là que vous avez grandi, dans une famille turco-kurde,
oui,
réfugié en France. Mais au lieu de raconter l'histoire de Gabriel,
oui,
qui ressemble peut-être plus à ce que vous étiez enfant, vous avez préféré raconter l'histoire du Breton Noé. Pourquoi, Maïr Guven?
Il y a quelque chose qui me dérange fondamentalement dans l'époque. Vous savez, c'est cette assignation à dire il faut être ça pour raconter ci. Vous voyez? Et moi, enfant, c'est peut-être adolescent où j'ai commencé à me sentir différent. Mais je dirais que quand ma conscience s'est éveillée au monde, en tout cas mes premiers souvenirs, 3-4 ans jusqu'à mes 14-15, je me sentais fondamentalement comme les autres. J'avais pas la nationalité française encore, mais je me sentais fondamentalement français. Et quand j'ai commencé à écrire ce texte, je me suis dit, mais j'aurais pu m'appeler Noé ou Germain ou Robert, enfin plutôt Arthur ou Sébastien, qui étaient les prénoms donnés dans les années 80. Mais je me suis dit, et je suis capable de raconter la vie de ces personnes, puisque c'était mes amis, mes voisins. Je sais ce qu'ils mangent à Noël, je sais ce qu'ils mangent à Pâques, je connais le nom de leurs oncles, les musiques qu'ils écoutent. Et c'était une manière pour moi aussi de rendre hommage à Saint-Sébastien, c'est-à-dire que c'est des gens qui m'ont permis de me construire, qui m'ont accueilli, qui ont accueilli notre famille. Je ne parle même pas de tolérance, c'est encore mieux, ce sont des gens chaleureux. Et j'aimerais bien qu'en France, les gens soient comme ça dans tous les coins de France, mais à l'Ouest, il y a cette tradition d'accueil, de chaleur ou de douceur, ou je ne sais pas. Donc j'ai voulu jouer avec les codes, me dire, oui, j'aurais pu être Noé Stéphane, en fait, je suis né Mayer-Guven, dans une famille turco-kurde. Il s'avère que la famille de Gabriel Kalender, donc l'autre personnage, ne ressemble pas du tout à la mienne, parce que ce sont des Kurdes très militants. Et quand j'étais enfant, ces familles me fascinaient, il y en avait deux à côté de chez moi, et j'avais l'impression que ces amis-là étaient des enfants soldats. Il y avait notamment un film qui racontait une histoire vraie qui s'appelait Killer Kid, qui était l'histoire d'un jeune Libyen qui avait été endoctriné pour tuer François Mitterrand. Et ce film me fascinait, et en même temps, ces amis-là me rappelaient cet enfant soldat. C'est-à-dire que c'était des gens quand même très raides, très durs, mais en même temps, des sortes de mini Che Guevara, qui à 8-9 ans savaient ce qu'était une injustice, comment la combattre. Donc voilà, j'ai voulu aller sur ce terrain-là. Et le mariage, si vous voulez... Ces enfants peuvent être des sortes d'enfants soldats. En même temps, ils jouent aux billes, ils jouent au foot, ils font des bisous, ce qu'on appelait des pew, des smacks. Voilà, j'ai voulu raconter tout ça.
Tout en laissant des petits cailloux dans le texte et citer, ci et là, un petit Mayer, il y a même le nom de Guven qui apparaît. Et tout en disant aussi, Mayer Guven, qu'il y a des liens entre le peuple breton et le peuple kurde. Lesquels, par exemple ?
Bah, écoutez, je n'ai pas réussi à mettre le doigt dessus, mais je les ai constatés. Ce que je veux dire par là, c'est que la première chose que je remarque quand je suis adolescent, c'est qu'il y a un cercle d'amitié kurdo-bretonne. Bon, je trouve ça très étonnant. Et puis, c'est vrai que toute mon enfance, on voyait qu'il y avait un lien, par exemple, entre les Basques et les Bretons, un peu les Corses, etc. Et puis, j'ai remarqué aussi que les danses bretonnes et les danses kurdes se ressemblent. Ce sont des danses en ronde où on se tient par les mains, les petits doigts, et on danse sur rythmé. Le biniou ressemble au zourna. Enfin, vous voyez, donc, je ne suis pas anthropologue ou archéo-anthropologue. Néanmoins, j'ai vu des ressemblances. Alors, je me suis dit finalement, est-ce que ce n'est pas simplement le fait que quand on est minoritaire, peut-être qu'on se rapproche, tout simplement. Ou peut-être qu'il y a une espèce de surconscience, vous voyez, des espèces de vieux esprits qui viennent. Les légendes sont très importantes chez les Kurdes, en Bretagne aussi, chez les Basques aussi, chez les Celtiques, les Kabyles. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'amitié, vous voyez, qui vient de très très loin. En tout cas, ce qu'on appelle le biniou ou le zurna en Turquie, c'est un hautbois en réalité. Et le hautbois est un des plus vieux instruments au monde. Et donc tous ces peuples un peu anciens, un peu minoritaires, ont la particularité de partager le hautbois. Bon... Peut-être que j'en ferai un roman un jour, une histoire du hautbois, une histoire romancée, mais c'est l'écrivain qui raconte là, je ne suis pas scientifique. Voilà.
Alors continuons de faire connaissance de Noé, qui est très obsédé par l'absence de son père, dont pendant longtemps sa mère et son oncle lui ont fait croire qu'il était en voyage, ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisque c'est un homme dont les convictions politiques ont eu raison de sa vie de famille, et je m'arrête là, les lectrices et les lecteurs découvriront ce qui est arrivé à Guven. Stéphane, est-ce que c'est en effet déterminant, selon vous, de grandir sans un père à ses côtés, Mayer Guven ?
En tout cas, pour moi, ça l'a été. Ça a été un manque permanent. Permanent, et même encore aujourd'hui. Et... J'aurais pas dû parler de ça.
Ah, désolé.
On était où ?
C'était un manque.
Ah oui. Donc... Et même aujourd'hui, c'est un manque permanent, puisque vous vous dites constamment comment aurait été la vie avec. Et donc, j'ai des exemples comme ça. Je me rappelle, notamment, c'est des scènes dont je me suis directement inspiré de mes sentiments. C'est les scènes où on doit, dans la vie où on doit remplir le métier de ses parents. Et ça, c'est terrible, parce que décéder n'est pas un métier. Et donc, sur le moment, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, et on n'est pas du tout armé. Quand on a 8, 9, 10, 12, même jusqu'à l'université, on n'est pas vraiment armé. Et je dirais, Ça, c'était un vrai manque. Et puis, il y avait une jalousie aussi. C'est-à-dire que quand on voyait d'autres enfants qui avaient un père, une mère, ben, il y avait une jalousie. On a l'impression qu'on manquait un peu d'amour, ou en tout cas, on le ressentait comme ça. Et surtout que dans mon cas, on nous l'a caché. Le fait que mon père ait été assassiné, on ne nous l'a pas dit pour nous protéger. Ma grand-mère nous a dit qu'il était en voyage. Et puis ensuite, un voisin nous a dit « Ah non, non, mais il travaille pour les services secrets, je ne sais pas où, je ne sais plus où. » Puis quelqu'un nous a dit « Non, non, il fait des études pour être pompier. » Et donc, au bout d'un moment, je passais pour un menteur, puisque je racontais aux gens « Mon père fait ci, mon père fait ça. » Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que tous les autres enfants savaient. On leur avait dit, mais on leur a dit « Vous ne lui dites rien, vous ne dites pas. » Et donc, cette ambivalence a duré quelques années jusqu'à ce que je comprenne, mais sans que personne ne me dise rien. Et c'est avec l'arrivée d'Internet, j'ai tapé le nom de mon père sur Internet, je suis tombé sur d'abord une page en français du journal Le Monde qui indiquait que mon père avait été assassiné à Paris. Et de là, et ça a, je crois, créé en partie mon engagement politique, puisque dans mon coin, ça raconte aussi ce qu'a donné Internet après, l'endoctrinement sur Internet, c'est que dans mon coin, j'ai commencé à avoir plein d'infos sur le monde. Et des infos que les adultes ne maîtrisent pas, puisque eux, ils se disent, ah, y a la librairie, il y a le marchand de presse, il y a nous, et puis... Mais en fait, moi, par Internet, j'avais accès à tout. Et donc, j'ai commencé à me dire, dis donc, qu'est-ce que c'est que, c'est quoi l'indépendance des Kurdes, et puis le communisme, et puis je ne sais pas quoi, et puis le coup d'État en Turquie. Et donc, bien entendu, c'était des choses que j'apprenais, mais je ne pouvais pas en parler à mes copains. Enfin, quand j'en parlais avec mes copains, ils ne comprenaient rien. Et parce que c'était une passion, en tout cas, c'est un manque que j'essayais de combler. Donc, je me suis inspiré de ça, et j'ai essayé de le sublimer par un roman pour essayer de comprendre comment on devient un garçon quand on manque d'un papa. Voilà.
Je suis désolée, Maher Given, pour cette question qui provoque beaucoup d'émotions en vous. Et merci de partager ça avec nous. Et en effet, ici aussi, on voit que même absent, le père est toujours là, puisque c'est en découvrant son militantisme breton via des archives que Noé fait aussi son apprentissage politique.
C'est exactement ça. C'est, comment vous dire ? Noé, en fait, quand il constate que son père lui manque et quand il découvre l'identité de son père, il commence à chercher sur Internet, il demande à son oncle, il trouve des journaux dans le grenier, etc. Et c'est comme si finalement, il comblait le manque par la lutte politique. Et moi, ça me permettait d'interroger ce qu'était le militantisme. Puisque je viens d'une famille militante, je n'ai jamais compris le militantisme de mes parents. Je ne l'explique pas. Ma mère s'est présentée comme une personne communiste. Or, moi, je l'ai connue comme quelqu'un qui adorait les belles choses, les belles voitures, qui a créé une entreprise, etc.
L'un n'empêche pas l'autre.
Mais c'est quelqu'un qui tenait des propos très rudes sur l'argent, les patrons. Donc, il y avait cette ambivalence et j'ai essayé de comprendre. Dans l'histoire de ma mère, il y a une histoire de manque. Elle a perdu son père quand elle avait 4 ans et demi. L'histoire de mon père, c'est différent. C'est des gens qui ont été arrachés à leur terre. Donc, il y avait un fond politique, je pense, beaucoup plus... viscéral, nerveux. Mais j'ai essayé de comprendre d'où venait l'engagement des gens et je voulais le raconter. Je voulais le raconter par la fiction. Et surtout, ce qui m'amusait, c'est que j'ai fait partie d'une génération assez politisée encore, mais structurée, c'est-à-dire quasiment guidée par les partis, puisque dans les lycées, et pas les collèges, mais dans les lycées, il y avait des organisations lycéennes, mais finalement qui étaient dirigées par des partis. Et ce qui m'amusait, à l'époque j'en étais très conscient, c'est qu'on avait des avis très marqués, on allait manifester contre l'extrême droite, etc., ce qui était une bonne chose d'ailleurs. Mais en même temps, à côté, on parlait de bisous, de machin, de trucs, de choses complètement futiles. Et moi, ce mélange me passionne. J'ai un ami, je m'en suis inspiré d'ailleurs, qui avait des discours politiques très puissants sur l'argent, le pouvoir de la corruption, puis en même temps, il vendait de la drogue. Et ça, je trouve ça passionnant chez les ados. Et je voulais aussi remercier les adultes de l'époque, dont une partie était consciente de ce qui se passait, notamment la drogue. J'ai voulu beaucoup en parler, parce que je crois que ça a marqué ma génération. Et ils nous ont tout pardonné a posteriori.
En tout cas, tout ça, en effet, est au cœur de votre roman, Maher Given. À la fois le militantisme, le politique, la discrimination, les viols, des sujets graves, le harcèlement scolaire, très important. Et puis, beaucoup de choses beaucoup plus légères. Noé grandit, il se bagarre, il rêve des filles, il fait du hockey subaquatique. C'est l'expérience de toutes les premières fois, évidemment. Et puis, l'écoute de la musique. Et là, avec vous, Maher Given, on est servi parce qu'on a toute la playlist des années 90, Balavoine en tête, évidemment, mais aussi tous les groupes bretons, de Triane à Matmata. Qu'est-ce que vous préfériez, vous, à l'époque, Maher Given ?
J'aimais beaucoup le raï. Dans les années 90, c'était la musique à la mode, c'était une musique joyeuse. J'aimais beaucoup Jean-Jacques Goldman. Ensuite, il y a eu la grande période du rap. On a tous adoré cette musique. Je pense qu'elle nous offrait un espace de liberté. Elle nous autorisait l'insolence légalement. Il suffisait d'allumer son poste radio. On était insolent. On pouvait dire au monde qu'on le détestait d'un coup. J'ai adoré le rap et puis la musique kurde. Mais la musique bretonne est présente à Nantes. Elle est toujours en fond. Vous voyez, il y a un fond sonore qui est là.
Mais ici, pour illustrer le roman, quel titre vous choisiriez,
Maher Guled? Pour illustrer le roman, je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire? L'enfant seul, d'Oxmo Puccino. L'enfant seul, je dirais que ça raconte bien le roman. Ouais.
Alors, on l'écoute.
Comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre dans une chambre vide. Tu brilles entouré de gens sombres voulant souffler. Celui qui a le moins de jouets, loin du chouchou. Celui qu'on fait chier, le cœur meurtri, meurtrière et ta jalousie. L'enfant seul se méfie de tout le monde, pas par choix. Mais dépit pense qu'en guise d'amis son ombre suffit. Une solitude qui suit jusque dans le sexe. Mon texte coupe l'enfant seul en deux espèces. Ceux qui baisent à l'excès mais souhaiteraient se fixer à une femme plutôt qu'à mille fesses quand l'autre sort t'écoute. Souvent la même chanson dans le poste et porte le deuil d'une relation morte et reste l'œil humide. La tête baissée laisse le cœur sur l'estomac, l'estomac sur les genoux ma tristesse n'a d'égal que le coup de gueule muet de l'enfant seul que nul ne calcule. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi, viens du débat fond des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi, viens du débat fond des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi, viens du débat fond des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi, viens du débat fond des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Mes mots s'emboîtent, les gens s'y voient comme dans une flaque d'eau. Ça leur envoie un triste reflet, mais est-ce ma faute? T'es l'enfant seul, c'est pas facile, on se comprend, peu le savent. Que je le sache, ça te surprend. Il mate par la vitre, la solitude qui mine fait passer la quinine pour un sucre. Faut être lucide, il faut qu'on se libère, disent-ils, ils n'en discutent pas. Confondent la rime et l'acte, la fuite et le suicide impact. Une promo sans traque, pas trop de mots. Nobody n'a capté le sale souhait, l'envie de se laisser par le coup pendu. Pour punir les parents qui pour aimer l'enfant ont trop attendu. Car si l'amour est une course, l'enfant naît, c'est le départ en tête. L'embêtement qu'en passe-temps on fait des parents bêtes. Maîtrise dans 6 ans, sentiment en 6 ans, sinon dans 6 ans. On me retrouve ciseaux dans le crâne, dans le sang gisant. Dès l'enfant seul, dis-moi que c'est toi, viens du débat fond des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, dis-moi que c'est toi, viens du débat fond des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, dis-moi que c'est toi, viens du débat fond des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi, viens du débat fond des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. L'enfant seul, c'est l'inconnu muet du fond de classe. Celui des qui l'on se moqueront comme Coluche. Ou bosse dans le hall, au groupe massif. Lost dans le steak, haché plantant chaque postulant à son poste. Vu que les conneries de gosses des rues couvrent souvent un jeune qui souffre d'un gros gouffre affectif. Grandir sans père c'est dur, même si la mère persévère. Ça sert mais pas à trouver ses repères c'est sûr. Perdre sa mère c'est pire, demande à Pitch t'assure. T'as pas saisi, enlève la mère de la Côte d'Azur. Quand ces gosses poussent leur souffrance aussi, nous savons tous que personne ne guérit de son enfance. Même un torse poilu ne peut oublier sa vie de gosse du divorce.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Maher Guled qui publie Les Innocents aux éditions Grasset. Un titre où ce passage, page 270, fait écho. Vous voulez bien nous le lire? Ce sont quelques lignes que vous avez certainement en tête puisque vous les avez écrites.
À nous les perdants, les naïfs, les perdus, les mal habillés, les mal fagotés, les sans scooters, les gars aux ourlets salis par les chaînes de vélo, les enfants de chômeurs, les manifestants, les cabossés, les professionnels de la branlette, les amoureux des pages lingerie de la redoute. À nous les grands rêveurs, ils nous forcent à mordre les lignes pour accéder au grand monde, nous forcent à se rendre coupables, les innocents, c'est nous.
Merci pour cette lecture. Nous, j'ai bien compris qui c'était, mais c'est qui il?
Il?
Ouais.
Alors, pour décrire ce passage, c'est un passage qui en réalité est un peu ironique. Pourquoi je dis ça? Je l'ai écrit pour me foutre de ma propre gueule. Parce qu'en réalité, quand le narrateur politise de son discours, il vient juste d'être viré d'une fête. Il n'est pas content et il invente les dominants, les dominés, etc. Parce qu'il s'est fait virer d'une fête. Et d'ailleurs, c'est de sa faute. Parce qu'il a essayé de piquer la petite copine de son ami, etc. Donc, il, c'est les gens qu'on ne voit pas, qui possèdent, qui dominent, qui réussissent. Ce sont les gens qui ont accès à des scooters, qui ont des beaux vêtements, qui ont des petites copines, alors qu'eux se retrouvent avec une canette de bière à la main et ils doivent rentrer à pied à la maison, si je peux me permettre, la queue entre les jambes. Voilà.
Et c'est là aussi toute la dimension sociale de ce roman, Les Innocents, avec une France qui souvent a un peu du mal à joindre les deux bouts.
Ouais, c'est ça, c'est la France des ric-rac.
Ouais.
On n'est pas pauvre, on n'est pas riche, ça va, on n'a pas vraiment d'économie. On peut se permettre des choses, on part en vacances. Mais si on a un coup dur, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Du coup, on a un voisin qui va vous aider à réparer la toiture, le garagiste du coin qui va vous faire la vidange moins chère. Voilà, voilà.
Et c'est une France aussi qu'on ne voit pas beaucoup en littérature, où il est souvent question de Paris, de la banlieue, de grandes villes. Mais c'est vrai qu'à part vous, Maher Guven, et je pense aussi à Nicolas Mathieu,
ouais,
qui a commencé de faire ça dans ses deux romans précédents, on parle vraiment d'une autre France qui est pourtant une France majoritaire.
Ben, je crois que c'est la France des petites maisons et des villes moyennes. Ça doit être 60 ou 70% du pays. J'ai l'impression que dans ces coins-là, les gens sont heureux en réalité. Moi, en tout cas, j'étais très heureux. La vie est calme, paisible, il y a des oiseaux, il fait beau. Certes, on n'a pas la dernière voiture. Certes, on ne va pas, je ne sais pas dans quel pays et dans quel bel hôtel en vacances. Mais on est plutôt heureux parce qu'on a du temps, on a des amis.
Comment vous convenez qu'on n'en voit pas cette France en littérature ?
Je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, il y a un triptyque qui est grosso modo centre-ville urbain et notamment très centré sur Paris, les banlieues et un tout petit peu de campagne. Mais en dehors de ça, on a l'impression que la France n'existe pas ou peu. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit Les Innocents. Voilà. Et je voulais rendre ça beau et heureux. Je voulais faire un texte drôle aussi pour montrer que c'est pas... Parce que parfois, quand ces mondes-là sont racontés, ils sont racontés de manière misérabiliste.
Et ici, c'est pas le cas du tout,
voilà,
en effet.
Et je crois pas que les gens soient dans la misère non plus.
Donc l'éducation politique, sociale, sexuelle, n'en rajoutons pas. Mais pas tellement littéraire, me semble-t-il, Maher Guven. À part La Mère, qui lit des romans de Fred Vargas et d'Amin Malouf, pas beaucoup de références. Vous n'aimiez pas lire, enfant ?
Si, mais à l'école, on me disait que ce que je lisais ne valait pas le coup d'être lu. J'adorais Bernard Werber, par exemple. Mais j'ai un souvenir précis d'une prof qui m'a vu avec le livre en sortie scolaire, qui m'a dit « Attends, tu dois pas lire ça, il faut lire des grands auteurs ». Quand on m'a mis les grands auteurs dans les mains à 14-15 ans, et j'ai un souvenir avec l'éducation sentimentale, je ne comprenais rien. Alors, on peut toujours voir les choses de deux manières. On met dans les mains des enfants, on se dit, bon, bah, en forçant, ils vont bien apprendre quelque chose un jour. Moi, je dirais que c'est peut-être pas le moment de lire ça. C'est peut-être un peu jeune, c'est peut-être un peu tôt. Et donc, je lisais énormément les journaux. L'Équipe, Ouest France, notamment, Les Faits divers. Et puis moi, j'avais une grand-mère qui racontait à la Méditerranée énormément d'histoires. Je pense qu'elle m'a transmis le sens de la narration. 80% de vérité et 20% d'invention, on va dire, pour pas dire mensonge, pour enrober les histoires et les rendre jolies. Et voilà, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de journaux et puis de la science-fiction.
À quel moment est-ce que vous êtes devenu écrivain, Maher Guven ? Quand est-ce que l'écriture est venue à vous, plus exactement ?
Il y a eu les moments où j'écrivais, mais je n'avais pas conscience d'écrire. Quand j'étais ado, j'essayais d'écrire des chansons, des petites histoires, comme beaucoup d'adolescents, je pense, ou d'enfants. Et puis à 20 ans, j'ai écrit une pièce de théâtre que j'ai montée, d'ailleurs. C'était une comédie musicale, je l'ai montée à la Sorbonne. C'était inspiré d'un conte populaire de Turquie. Et là, j'ai pris confiance en moi, parce que j'ai vu 400 personnes devant moi, trois soirs de suite, écouter ce que j'avais écrit. J'avais dirigé des comédiens, je jouais dedans aussi, d'ailleurs. Et puis après, j'ai mis ça de côté parce que je travaillais. J'ai suivi des études de droit et je me suis mis à travailler. Et puis, je dirais que quand j'étais pas heureux au travail, en fait, c'est ça qui devait gratter à la porte. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri dans la presse. C'est pour peut-être rattraper mon stylo ou un clavier.
Comme journaliste d'abord, en effet.
Comme gestionnaire et puis j'écrivais en même temps. Et puis un jour, Eric Fotorino m'a dit « Tu sais, il y a beaucoup de chair dans ce que tu écris, tu devrais écrire des romans ». Et je crois qu'il a eu raison. Et c'est probablement après Grand Frère que j'ai commencé à avoir conscience que je pouvais écrire et que j'étais probablement écrivain. Voilà.
En tout cas, ici, il y a un nouveau défi après celui de Grand Frère, déjà, qui d'un point de vue stylistique était un tour de force incroyable. Vous aviez restitué une, deux, trois langues orales de façon sidérante. Ici, le défi, Maher Guven, c'est d'écrire à hauteur d'enfant. Parce que quand Noé a 8 ans, il ne s'exprime pas de la même façon que quand il a 15 ans. Vous avez beaucoup travaillé ça.
Oh, énormément. Je compte plus les heures, mais c'était un grand plaisir. Je l'ai fait vraiment avec un plaisir immense. Ça demande une énergie intérieure considérable. Ça consomme une énergie puisqu'il faut plonger en soi-même. Et donc, il faut penser comme on pense quand on a 8 ans, 9 ans, 6 ans. Et ensuite, il faut le restituer avec la langue de l'époque, mais tout en donnant des pistes au lecteur adulte. C'est-à-dire que c'est un enfant qui parle, mais pas vraiment non plus. Parce qu'il raconte systématiquement des choses que les adultes peuvent comprendre, mais à sa manière. Et donc, mais ça m'a beaucoup plu. Ça m'a vraiment beaucoup amusé. C'est épuisant. Une séance d'écriture comme ça, ça vous vide. Mais ensuite, vous êtes. Je sais que quand j'ai lu le livre avant sa sortie, j'étais fier de moi en me disant bon, peu importe son destin, je suis content du travail accompli, comme un artisan oui, qui a fini une belle pièce. Voilà.
Oui, parce que vous êtes vraiment un écrivain de la langue française.
Ah, c'est gentil.
Dans le sens où, enfin, on sent que pour vous, c'est un matériau extraordinaire duquel vous pouvez faire sortir des choses fascinantes.
Ah oui, et c'est pour ça que j'adore écrire à partir de la langue qui est parlée par les gens. Je la trouve extrêmement riche parce que les gens inventent en permanence. Ils inventent des choses, des trucs. Et donc moi, j'adore inventer des mots aussi pour donner du sens à des choses. Enfin, parfois, quand on n'a pas le mot, par exemple, ristafoler, il fallait que j'invente ce mot. Et il fallait que la sonorité de ristafole représente exactement ce qu'est une ristafole. Donc une ristafole, il faut l'expliquer aux auditeurs, c'est quand la mère de Noé balance une sentence un peu dure, beaucoup plus dure que ce que ça devrait être, mais qui peut être aussi assez drôle. Donc c'est un peu une vacherie, mais en même temps c'est une vacherie qui est comme une gifle, c'est une gifle verbale, voilà. Donc j'ai résumé en un mot ce qu'on explique en deux mots. Et oui, c'est un matériel, je le vois comme ça, une caisse à outils où on s'amuse énormément. Et puis, vous savez, j'ai toujours la langue turque en tête aussi. Donc, je compare parfois. Par exemple, en français, on n'a pas les harmonies vocaliques. Les harmonies vocaliques, c'est ce que vous mettez en fin de phrase en turc pour faire rimer avec le mot précédent. Ce qui fait que vous avez une langue très chantante. Et du coup, quand on parle en français ou quand on écrit en français, on n'a pas cette harmonie vocalique. Du coup, nos phrases ont un rythme assez différent. Donc, j'ai ça. Et puis, le turc, c'est une langue très compacte. Il n'y a pas de pronoms. On peut mettre les mots dans tous les sens. Et donc, des fois, je m'amuse, je regarde, je me dis, ah, cette phrase... Elle est un peu faiblarde, alors attends, si je la traduisais en turc, ça donnerait ça. Ah ouais, tiens, ça me fait penser à telle expression, et puis je la rapatrie. Je vais aussi chercher des proverbes turcs que je francise, mais je ne le précise pas dans les textes, mais je me dis, ça c'est très beau, ça tiens, embarquons-le en français, et puis voilà.
Ah mais c'est magnifique, merci beaucoup de nous raconter ça, Maher Güven, parce qu'on comprend d'où vient aussi cette vitalité, à la fois la langue orale, à la fois les transfuges de langue turque. Ça explique pourquoi tout ça est si gai, si joyeux, et si pétillant et voilà, et plein de vie. Et puis rappelons aussi que vous êtes écrivain, mais aussi un éditeur très heureux, puisque vous avez fondé la collection La Grenade, qui a gagné récemment le prix de la création éditoriale, les trophées de l'édition le Livre Hebdo. Merci beaucoup, Maher Güven.
Merci, Catherine.
Vous avez donc publié, je le rappelle, ce roman intitulé Les Innocents, paru aux éditions Grasset.
Merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Eva Piedel.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.